Vous écoutez On lit pour vous.
Les coulisses d'un processus délicat, un dossier de Caroline Touzin, paru le 30 août 2025 dans la presse. Accompagner les familles au pire moment de leur vie. Donner un sens à des drames qui, souvent, n'en ont pas. Sans jamais tenter d'influencer leur choix pour la suite. La presse a réalisé une rare immersion dans l'univers du don d'organes. Un baume sur une douleur vive. La famille de Chantal encaisse le choc. Pour des raisons de confidentialité médicale, nous avons changé le prénom de la donneuse et celui de ses proches. Son frère et ses deux sœurs se relaient à son chevet depuis son arrivée aux soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, la veille. Le scan cérébral est catastrophique, observe l'intensiviste, le docteur Yannick Beaulieu. La femme de 65 ans revenait de faire ses courses lorsqu'elle a subi une hémorragie cérébrale. Elle a été trouvée semi-consciente dans sa voiture. Le premier scan réalisé à son arrivée montre une hémorragie massive, explique le médecin. Il est possible d'opérer pour retirer le sang, mais le cerveau est un organe qui ne se régénère pas. Chantal aura des séquelles importantes et devra vivre dans un CHSLD, poursuit-il. Le mot CHSLD équivaut à prononcer le nom de Voldemort, un mot terrifiant qui permet aux familles de bien saisir la gravité de la situation, expliquera l'intensiviste à la presse plus tard ce jour-là. Le pronostic de Chantal est sombre. Sa famille le comprend bien. Si votre sœur était assise avec nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle voudrait ? Leur demande-t-il. Ses proches sont unanimes, pas d'acharnement, ni de CHSLD. Ce sont eux qui abordent d'emblée le don d'organes. D'habitude, le docteur Beaulieu ne parle pas de don d'organes à sa première rencontre avec les familles des patients. On découpe l'annonce pour leur laisser le temps d'accueillir la mauvaise nouvelle, dit-il. Chaque fois, dans cette conversation que personne ne souhaite avoir, les familles finissent par demander « Que pouvez-vous faire pour lui ou elle ?» Quand la réponse est « qu'on ne peut rien faire », on appelle Ariane, résume le sympathique intensiviste. Ariane Faye est le pilier d'une petite équipe d'infirmières ressources spécialisées dans le don d'organes à l'hôpital du Sacré-Cœur, rattaché au CIUS du nord de l'île de Montréal. Toutes formées en soins intensifs, elles accompagnent les familles des patients dans le moment le plus difficile de leur existence. Le docteur Yannick Beaulieu insiste. Le rôle d'Ariane est essentiel. Pour la famille, ça n'arrive qu'une fois. Il faut que tout se passe bien. L'infirmière est aux côtés des familles lorsqu'on leur annonce le pire. Puis, elle leur offre de mettre un baume sur leur douleur vive, avec la possibilité de sauver d'autres vies. Jamais on ne va tenter de convaincre une famille. Je les accompagne jusqu'à la fin, qu'elles donnent ou pas. Explique-t-elle. Au Québec, si le défunt n'a pas pu communiquer ses intentions, c'est la famille qui s'exprime en son nom. Même quand la personne a signé sa carte de don d'organes, les proches sont toujours consultés avant qu'on opte soit pour des soins de confort, soit pour le don d'organes. C'est la famille qui a le dernier mot. Cet après-midi-là, l'infirmière prend le temps de montrer à la famille le nouveau scan du cerveau réalisé plus tôt dans la journée. C'est important pour nous de comprendre, lâche le frère de la patiente, penché sur l'ordinateur du poste des infirmières. Chantal était sportive. Retraitée du domaine de l'entretien ménager, sans enfants, elle était toujours là pour tout le monde. L'infirmière fait ce que ses autres collègues aux soins intensifs, débordés, n'ont pas nécessairement le temps de faire. Écouter, expliquer dans un langage simple et réexpliquer encore. Au chevet de Chantal, l'infirmière offre à la famille de couper quelques mèches de cheveux de la patiente. Elle fait le geste avec une grande douceur, puis elle décore le précieux souvenir d'un joli ruban. La sexagénaire adorait la musique. L'infirmière déniche un iPad et bâtit une liste de lectures avec la famille. Ses chansons préférées joueront toute la soirée. L'infirmière décrit les prochaines étapes. Demain, une série de tests seront réalisés pour déterminer si Chantal est admissible comme donneuse d'organes. Je suis surpris qu'on prenne les organes d'une personne de 65 ans, dit candidement un jeune neveu de la patiente. Il n'y a pas d'âge maximal, mais pour le cœur, c'est limite à cet âge-là, explique l'infirmière. On franchit une étape à la fois, mais tout s'aligne bien. En parallèle, Transplant Québec, organisme qui gère les dons d'organes au Québec, va sortir une liste de receveurs potentiels dans différents hôpitaux de la province. Une coordonnatrice, aussi infirmière, se déplacera à l'hôpital et planifiera les matchs. Si la patiente tombe en mort cérébrale, elle sera maintenue sous respirateur. Dans ce cas, elle sera transférée au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, pour le prélèvement d'organes. Sinon, le prélèvement se fera ici, à Sacré-Cœur. La famille de Chantal aimerait éviter un nouveau transfert. On est traité de manière exceptionnelle ici, dit l'une des sœurs. Intervenant spirituel à l'hôpital, le père Gérard leur rendra visite chaque jour. Ensemble, ils discuteront de la signification du geste. Peu importe les croyances, je suis là pour écouter, dit-il. Fervent catholique, l'une des sœurs de Chantal, Isabelle, et son mari vont se recueillir à la chapelle de l'établissement. Ma sœur va revivre à travers les autres, dit la femme. En 2024, quelques 200 Québécois ont donné un ou plusieurs organes. La famille de Chantal veut être présente tout au long du processus qui prend de 3 à 5 jours. Certaines familles trouvent cela long, d'autant que cela vient avec des coûts pour les proches, stationnement, hôtel parfois, repas à la cafétéria. D'autres, comme Jacques, frère de Chantal, estiment que cela aide à faire son deuil. On a le temps de brailler, de lui faire des câlins, de lui parler. Vous écoutez les coulisses d'un processus délicat, un dossier de Caroline Touzin, paru le 30 août 2025 dans la presse. Le lendemain, le moment est solennel. Un peu plus de 48 heures après son arrivée aux soins intensifs, deux médecins, dont le docteur Beaulieu, procèdent au test pour confirmer la mort cérébrale survenue possiblement durant la nuit. On ne voudrait surtout pas prélever l'organe de quelqu'un qui n'est pas tout à fait mort, explique l'infirmière Ariane Faye. Cela peut être difficile à regarder, mais Chantal ne souffrira pas, dit-elle à sa famille. Une seule des sœurs, Marie, se sent assez forte pour y assister. Chantal a été là pour moi quand j'ai perdu mon mari subitement à 41 ans, dit-elle. Maintenant, je suis là pour elle. Différents tests de réflexes à la lumière et à la douleur sont réalisés, dont celui consistant à mettre de l'eau glacée dans ses oreilles. S'il y avait une activité cérébrale, l'œil réagirait. Ce n'est pas le cas. On est rendu au dernier test, annonce l'infirmière Faye. Chantal est maintenue sous respirateur. La machine sera débranchée durant une dizaine de minutes, le temps de voir s'il y a un mouvement du thorax. En d'autres mots, tentera-t-elle de respirer par elle-même? Le docteur Beaulieu lance le chronomètre sur son téléphone cellulaire. 6 soignants, dont une inhalothérapeute, sont tout autour de la patiente, chacun affecté à une tâche précise. Le seul bruit dans la pièce est celui des sanglots étouffés de la plus jeune sœur de la patiente. Elle s'appuie sur son mari pour ne pas vaciller. Ariane Fay lui offre une chaise et des mouchoirs. À 15h30, l'intensiviste prononce la mort cérébrale. Dans les jours suivants, Chantal sera transférée au CHUM pour le prélèvement. Ses deux reins et son foie ont été transplantés avec succès. La famille de Chantal aurait bien voulu connaître l'identité des receveurs. Elle aura toujours la possibilité d'échanger des lettres anonymes par l'entremise de Transplant Québec. Parfois, certains se retrouvent grâce à des indices laissés ici et là dans la correspondance. Qu'importe, Chantal, une femme aux origines modestes qui a gagné sa vie en faisant de l'entretien ménager, aura été d'une grande générosité jusqu'à la fin, dira son frère, ému. En savoir plus, source bilan 2024 de Transplant Québec, 551, nombre de personnes ayant bénéficié d'une transplantation en 2024 au Québec, pour un total de 644 organes transplantés. Les organes les plus souvent transplantés sont les reins, 54%, suivi du foie, 21%, des poumons, 16%, et du cœur, 8%, ce qui représente une constante depuis les 10 dernières années. 856. Nombre de personnes en attente de transplantation en 2024 au Québec. Ce nombre est resté stable depuis les 10 dernières années, même si le nombre de donneurs a augmenté. La moyenne d'âge du donneur d'organes au Québec a été de 54 ans l'an dernier, la moyenne la plus élevée de son histoire. Sébastien voulait partir en faisant le bien. Paralysé depuis l'adolescence, Sébastien Matt souffrait trop pour continuer à vivre. L'homme au passé rock'n'roll a voulu partir en faisant le bien. Son souhait, donner ses organes après avoir reçu l'aide médicale à mourir, une démarche que font de plus en plus de Québécois. Peu importe la conclusion, votre geste est super beau. Sébastien Matt hoche la tête, ému. Dans son petit logement du quartier Hantzik, l'homme en fauteuil roulant est pendu aux lèvres de l'infirmière Ariane Fay. Il rêve de sauver des vies en quittant la sienne. L'infirmière spécialisée en dons d'organes le prévient avec beaucoup de délicatesse qu'il ne sera peut-être pas admissible aux dons d'organes. L'important, c'est votre démarche généreuse, insiste-t-elle. Mais on va tout faire pour que cela marche. Le corps de l'homme de 49 ans est usé. À 15 ans, un plongeon raté à la plage, l'a paralysé. Il ne marche plus. Il peine à se servir de ses mains. Sans compter son passé rock'n'roll. De la drogue, il en a consommé. Il en a vendu. Cela l'a même mené en prison. Il fume la cigarette depuis l'adolescence, l'un des rares plaisirs qui lui reste. Nous sommes le 3 juin 2025. Dans un peu plus de 2 semaines, le quadragénaire recevra l'aide médicale à mourir, AMM. Ces dernières années, il a séjourné de longs mois à l'hôpital Jean Talon, dans le nord de Montréal, en raison de profondes plaies de lit. Il apprécie le personnel qui se dévoue malgré la vétusté des lieux. C'est là qu'il veut mourir. On dit plaies, mais cela ressemble plus à des trous béants dont la cicatrisation est devenue impossible. Il souffre beaucoup, jour et nuit. C'est la raison pour laquelle sa demande d'AMM a été acceptée. Le processus de don d'organes est indépendant de celui de l'AMM. Transplant Québec, l'organisme qui gère le don d'organes dans la province, contacte la personne qui désire faire un don seulement après l'approbation de la demande d'AMM. Le donneur potentiel doit absolument recevoir le soin de fin de vie à l'hôpital pour garantir un accès rapide à un bloc opératoire. Les derniers jours de son existence sont bousculés car il doit se soumettre à différents tests médicaux afin de vérifier s'il est admissible au don. « Je suis en paix avec ma décision », assure Sébastien Matt à l'infirmière ressource Ariane Faye, rattachée au CIUS du nord de l'île de Montréal, dont fait partie l'hôpital Jean Talon. L'infirmière le questionne sur ses habitudes de vie, sans le juger. L'homme ne cache pas son passé. Ses dernières volontés touchent beaucoup l'infirmière. Il lui décrit avec moult détails les entreprises légales et illégales qu'il a fondées dans sa vie. Sa dernière, il vend en ligne des porte-clés en bois qu'il fabrique lui-même. Son logement en est rempli. L'infirmière le complimente sur son travail. Une hausse graduelle des dons en contexte d'AMM. Le don d'organes en contexte d'AMM a débuté en 2017 au Québec. De 2 cas la première année, nous sommes passés à 27 cas en 2024, selon le bilan de Transplant Québec. En 2024, ce sont 13% des donneurs d'organes dont la cause du décès est l'AMM. Vous écoutez « Les coulisses d'un processus délicat », un dossier de Caroline Touzin, paru le 30 août 2025 dans la presse. Sébastien Matt a peu de chances d'être admissible, estime Ariane Faye. Elle le lui répétera souvent durant leur rencontre. Cela vaut quand même la peine d'essayer. Parfois, un receveur placé sur une liste d'urgence risque de mourir faute d'organes disponibles. Dans les cas de vie ou de mort, des poumons abîmés peuvent être transplantés, donne-t-elle comme exemple. On essaie de faire des petits miracles, nous confie l'infirmière. À l'approche du jour J, lundi matin, 16 juin, étage des soins palliatifs de l'hôpital Jean Talon. À l'approche du jour J, Sébastien Matt est nerveux. La journée d'examen s'annonce longue. Son préposé personnel, Théo Massif, devenu un ami, lui change les idées du mieux qu'il peut. Ariane Faye amène elle-même le patient au scan, test essentiel pour déterminer si on est admissible au don d'organes. Elle lui fera également toutes les prises de sang nécessaires. Il fait chaud, dans la petite chambre non climatisée. Le patient et l'infirmière suent à grosses gouttes. Elle a besoin de remplir 35 tubes. C'est long. Mais Sébastien Matz accroche. Deux infirmières de Transplant Québec se sont déplacées pour la journée. La famille de Sébastien Matt est venue de cette île la veille pour un dernier adieu. « Mon frère est tellement courageux », nous lance Frédéric Matt. « Je n'aurais pas toffé longtemps dans son état. » Son amie d'enfance, Suzy Bérubé, est aussi à ses côtés. C'est elle qui lui a sauvé la vie, il y a 35 ans, en le sortant de l'eau après l'accident. Elle vient de lui offrir une chaîne avec un pendentif de rose des vents pour être en mesure de se retrouver où que l'on soit. Je le vois qu'il est rendu au bout du bout, dit-elle. Seb est fier de donner un sens à ses souffrances. Un contre-la-montre pour réaliser un jumelage. Les premiers tests révèlent que son foie est malade. Le cœur est exclu d'emblée en raison du type de décès. Restent les poumons et les reins. Comme le patient a fumé toute sa vie, ce serait étonnant qu'une équipe chirurgicale prenne les poumons. Il faudrait vraiment qu'un receveur potentiel soit à quelques heures de la mort. Les reins? Ils sont abîmés par la médication lourde de l'homme en fauteuil roulant. À deux jours de l'AMM, une équipe chirurgicale de Toronto réfléchit à la possibilité de prélever ses reins pour un patient qui est justement entre la vie et la mort. En fin de journée, l'équipe ontarienne décline. Puis, la veille de la date prévue aux soins de fin de vie, six hôpitaux québécois refusent à leur tour les reins. Les organes sont trop abîmés. C'est l'heure de l'annoncer aux patients. Lorsque l'infirmière Ariane Faye arrive à Jean Talon, Sébastien Matt grille une cigarette dehors avec deux amis de longue date. « Je n'ai pas encore de receveur ?» lui demande-t-il d'emblée. « Je viens te voir aujourd'hui pour te dire un gros merci pour tout ce que tu as fait. Je ne connais pas grand monde qui ferait tous ces efforts, » dit l'infirmière en se penchant à sa hauteur. « Ça a passé à un cheveu de réussir avec un receveur potentiel de Toronto, » poursuit-elle. Sébastien Matt se met à pleurer. L'infirmière lui répète à quel point il est spécial. « Je vais partir la tête haute, » finit-il par dire entre deux sanglots. « Tu peux partir en héros, » confirme l'infirmière spécialisée en dons d'organes. À 10 h le lendemain matin, heure prévue du soin de fin de vie de Sébastien Matt, Ariane Faye est déjà sur un nouveau cas de donneur potentiel. L'alarme de son cellulaire sonne. L'infirmière l'avait programmée pour observer une minute de silence à la mémoire de son patient. Elle se recueille devant son ordinateur en essuyant discrètement ses yeux embués. Beaucoup de références, peu de donneurs admissibles. En 2024, le Québec a enregistré 1116 références pour le don d'organes. De ces références, 206 se sont concrétisées en donneurs effectifs et 59 ont été annulées, ce qui illustre la complexité des critères d'admissibilité permettant le don. Parmi les 851 références non admissibles, les principales causes incluent les refus familiaux, 28%, la présence de maladies préexistantes ou actuelles, 46%, les problèmes neurologiques ou hémodynamiques, 18%, et d'autres raisons diverses, 8%. Ces proportions reflètent des obstacles constants à l'admissibilité des donneurs selon Transplant Québec. Pour augmenter le nombre de donneurs, des efforts doivent être poursuivis pour sensibiliser davantage la population et il faut également continuer d'encourager la recherche et le développement des techniques dans le secteur de la transplantation, écrit l'organisme qui gère le don d'organes dans la province dans son plus récent bilan annuel. C'était « Les coulisses d'un processus délicat », un dossier de Caroline Touzin, paru le 30 août 2025 dans la presse.
Nous aimons nos chiens et nos chats, mais sont-ils nuisibles à l'environnement? Un texte de Rachel Newart du New York Times paru le 31 juillet 2025 dans Le Devoir. Nos chiens et nos chats nous apportent toutes sortes de bienfaits. Ils améliorent la santé physique, réduisent le stress et peuvent nous aider à combattre la solitude. Des recherches montrent que les interactions avec les animaux de compagnie font baisser la tension artérielle. Les chiens ont besoin de promenades et de jeux, ce qui incite leur maître à rester actif. Et chiens comme chats peuvent tisser des liens très forts avec les humains. Bref, ils enrichissent nos vies. Il existe toute une littérature scientifique à ce sujet, souligne Pieter Defrenne, ingénieur en biosciences à l'Université de Gand, en Belgique. Mais, malgré tous ces bienfaits, nos compagnons ont un coût environnemental. Leur alimentation est riche en viande et certains causent aussi des ravages chez la faune. Alors, comment profiter de leurs avantages, tangibles comme intangibles, tout en réduisant leur empreinte de pâte écologique? Voici ce que conseillent les experts. Une énorme consommation de viande. Gregory Okun, géographe à l'Université de la Californie à Los Angeles, a estimé en 2017 que les quelque 163 millions de chiens et chats aux États-Unis consommaient à eux seuls un quart des calories animales produites dans le pays. Si les chiens et les chats américains formaient un pays, il se classerait cinquième au monde pour sa consommation de viande, dit-il. Toujours selon ses calculs, leur alimentation serait responsable d'environ un quart des émissions agricoles de combustibles fossiles aux États-Unis. Une autre étude a évalué qu'à l'échelle mondiale, la nourriture sèche pour animaux représentait jusqu'à 2,9% des émissions agricoles de dioxyde de carbone et 1,2% de l'usage des terres agricoles. Les conséquences sont encore plus marquées pour les animaux nourris avec de la viande de qualité humaine. Un chien de 20 kg nourri avec une diète crue à base de viande aurait un impact environnemental supérieur à celui de la plupart des humains carnivores, selon le vétérinaire et doctorant John Harvey de l'Université d'Édimbourg. Pour réduire ces effets, Gregory Okun recommande les aliments pour animaux qui respectent les besoins nutritionnels tout en étant moins riches en protéines animales. Les croquettes à base de poulet sont en général préférables à celles au porc, qui elles-mêmes ont un meilleur bilan que celles au bœuf. Et la nourriture sèche par rapport à la nourriture humide est généralement associée à une pollution moindre. Les aliments végétaliens pour animaux doivent être employés avec prudence, surtout pour les chats qui ont des besoins spécifiques difficiles à combler sans produits d'origine animale. En outre, la majorité des chiens et chats aux États-Unis sont en surpoids. Réduire la quantité de nourriture qu'on leur donne pourrait donc bénéficier à la fois à leur santé et à l'environnement, rappelle John Harvey, et beaucoup d'autres choses à gérer. La nourriture très nutritive que nous donnons à nos animaux produit des excréments tout aussi nutritifs. C'est en quelque sorte un super engrais, explique M. Harvey, en parlant des déjections canines et félines. Les niveaux élevés d'azote et de phosphore dans ces déchets sont liés à la contamination des sols et à la pollution de l'eau. Dans les parcs et les espaces naturels prisés pour la promenade des chiens, cet afflux de nutriments peut même entraîner une perte de biodiversité, selon M. Defresne. Ces effets pourraient être réduits si les propriétaires ramassaient systématiquement les déjections de leurs animaux, estime Kim Meyer-Yever, doctorante en ingénierie durable à l'Université technique de Berlin. On ne peut pas faire grand-chose pour l'urine, mais la moitié du problème pourrait être réglée si les gens ramassaient les excréments et les jetaient à la poubelle. Des instincts de chasse persistants. Les animaux de compagnie en liberté peuvent aussi perturber ou tuer la faune. Le simple passage d'un chien dans une zone naturelle peut avoir un effet dramatique sur la biodiversité, souligne John Harvey. Et les effets en cascade ne sont pas rares. Lorsqu'un chat tue une souris ou un campagnol, cet animal ne pourra plus nourrir un prédateur indigène, comme une chouette ou une martre, explique Harry Truborst, professeur de droit de la conservation de la nature à l'Université de Tilburg aux Pays-Bas. On peut éviter, ou du moins atténuer, beaucoup de ces problèmes en gardant les chats à l'intérieur et en tenant les chiens en laisse, ajoute-t-il. L'idée n'est pas de renoncer à tout animal de compagnie, mais en faisant attention à leur alimentation, à la gestion de leurs déchets et à leur comportement en milieu naturel, on peut vraiment réduire leur empreinte. Adoptez, ne magasinez pas. Enfin, si vous envisagez d'accueillir un nouvel animal, il est crucial de réfléchir à la manière dont vous allez l'obtenir. En 2024, environ 5,8 millions de chiens et chats sont entrés dans des refuges aux États-Unis. Parmi eux, 607 000 ont été euthanasiés, selon l'organisme Shelter Animals Count. Cette surpopulation pose à la fois des enjeux environnementaux et de bien-être animal. Adopter un animal dans un refuge ou auprès d'un groupe de sauvetage au lieu de l'acheter chez un éleveur peut contribuer à réduire ce problème. Plutôt que de créer un être de plus, vous en sauvez un qui est déjà là, résume la vétérinaire Lina Dutar de l'Université Cornell. Et pour ceux qui cherchent un animal à faible impact environnemental, il vaut mieux choisir un petit gabarit, suggère John Harvey. C'était « Nous aimons nos chiens et nos chats, mais sont-ils nuisibles à l'environnement ?» un texte de Rachel Newhart du New York Times paru le 31 juillet 2025 dans Le Devoir.
Quoi faire? Livre. 8 suggestions de lecture de Benoît Mignot, paru le 18 juillet 2025 dans le magazine Fugue. 1. Tu es exactement là où tu avais besoin d'être. Par Laurent Lepinois, édition du Panthéon. Antoine éprouve un mal-être qu'il ne s'explique pas. Épuisement professionnel ou angoisse de la quarantaine qui approche à grands pas. Les hypothèses se bousculent, mais rien ne semble vraiment coller, jusqu'au moment où il se retrouve devant des boîtes de bric-à-brac issues de son passé. Habité d'une certaine appréhension, il hésite tout d'abord à ouvrir un carton de photographies de sa jeunesse. Depuis 10 ans qu'il vit à Montréal, il lui semblait facile d'occulter son passé outre-Atlantique, mais il ne peut désormais plus empêcher le déferlement des souvenirs. Un père brutal et méprisant, une mère plus ou moins présente et la découverte honteuse de son désir pour les hommes frémissent en surface. Ce qui se détache avec force, c'est cependant la mémoire des abus sexuels subis entre les mains de son frère aîné. L'auteur, Laurent Lepinois, ne se limite pas à décliner une litanie de tourments, mais s'ingénie plutôt à les contextualiser et à en décortiquer les rouages insidieux. Ainsi, alors qu'Antoine s'attend à ce que son frère réfute l'existence même des abus, celui-ci le prend de court en les admettant, tout en manipulant la réalité afin de se présenter comme la véritable victime. Il est également confronté à cette stratégie de détournement des faits lorsque, après avoir repoussé les avances de son patron, ce dernier lui assène une réplique infantilisante qui lui en fait porter l'odieux. « Si tu veux avancer dans la vie, il va falloir que tu fasses des concessions. » Du haut de sa quarantaine naissante, Antoine parvient progressivement à porter un regard plus mature sur l'instrumentalisation des faits dont il a été victime. Il parvient ici à s'en détacher pour tenter de mieux vivre le moment présent. À cet égard, le titre du roman peut à la fois évoquer un état émotionnel ou encore l'instant précis où il se retrouve devant son carton de souvenirs. Un premier roman de Laurent Lepinois qui présente une chronique incisive et sensible des répercussions d'une jeunesse tourmentée. Les curieux seront également ravis d'y retrouver un chapitre où il relate sa découverte du Québec. 2. Kill Your Darlings par Josh Lanyon chez Josh Lanyon Publishing. Normalement, Karen Chandler adore son rôle de directeur de publication chez Millbrook House. Mais alors qu'il supervise une marmaille d'écrivains présents dans le cadre d'une conférence, il a l'impression d'être perdu au cœur du septième cercle de l'enfer. Une maison d'édition concurrente a pris le contrôle de Millbrook House, et chaque seconde qui passe lui fait sentir la fragilité de sa position. Finn Scott, son auteur vedette et amant occasionnel, lui annonce deux nouvelles qui le désarçonnent. A. Il met un terme à leur partie de jambes en l'air, et B. Il songe à trouver un autre directeur de publication au sein du nouveau groupe. Pour couronner le tout, un inconnu lui a fourgué un manuscrit entre les mains avant de prendre la fuite. Alors qu'il en amorce une lecture distraite, il réalise avec horreur que le roman décrit un acte criminel de son passé, auquel il a été mêlé de près. Qui est l'auteur du manuscrit et comment peut-il connaître des faits demeurés cachés? En temps normal, le lecteur découvre la vérité, cachée derrière le voile d'un mystère, au rythme des déductions du narrateur. La construction narrative est ici tout autre, puisque le narrateur cache activement ces éléments, et ce sont les autres protagonistes du récit qui amènent leur éventuelle révélation. Les amateurs des romans de Josh Lanyon seront d'ailleurs sans doute intéressés d'apprendre que, parmi l'entourage de Karen, on retrouve des héros de plusieurs autres séries. Adrian English, Jake Riordan, Christopher Holmes, J.X. Moriarty, Kyle Barry. Ceci dit, leur présence se limite avant tout à un rôle d'apparition éclair. Le récit se décline en trois actes parallèles. 1. La situation professionnelle de Karen. 2. Sa relation sentimentale ou son absence avec Finn. 3. Le mystère tapis dans l'ombre de son passé. Le roman offre par ailleurs un regard incisif et souvent jubilatoire sur le milieu de l'édition et les prima donna dont il se compose. La découverte du poteau rose n'est cependant pas à la hauteur de la prémisse et s'avère même dans les limites du vraisemblable. La lecture demeure agréable, mais manque un peu de sel, nonobstant le pastiche du milieu de l'édition qui génère plusieurs éclats de rire. Le personnage de Karen Chandler n'en demeure pas moins fort bien articulé, et on accueillera sans doute avec bonheur son inclusion dans un nouvel opus. 3. Cabin Fever, Changed, par Jason Bianchi. Jason Bianchi, un univers où l'hétérosexualité ne tient qu'à un fil. Le thème est assez courant dans la littérature érotique gay, mais rares sont les auteurs qui en font leur marque de commerce. C'est cependant le cas de Jason Bianchi, dont les différents romans mettent en scène des sportifs crâneurs, amateurs de femmes, qui se trouvent confrontés à des forces qui remanient leurs appétits. La prémisse est presque toujours la même. Un groupe d'hommes, généralement de niveau collégial ou universitaire, se retrouve coincé dans un lieu inhabituel où un événement surnaturel ou scientifique s'infiltre dans leur vie et dans leur couille. Sportifs et dragueurs invétérés, ils n'ont jamais, jusqu'à ce jour, porté qu'un regard discret à l'anatomie de leurs confrères. C'est donc dire l'incompréhension, voire l'affolement qui les habite lorsqu'une chute de rein, des biceps saillants, un renflement prononcé ou un regard viril attire leur attention. Toute résistance est cependant vaine, et une fois qu'ils ont goûté aux fruits défendus, il n'y a plus de retour en arrière. Les membres du groupe sont toujours diversifiés, mais on y retrouve invariablement un représentant maximachiste qui résiste vaillamment à son bouillonnement hormonal. L'auteur compte plusieurs séries à son actif. Dans Changed, le basculement survient en raison d'un sortilège lancé par une sorcière à des collégiens un peu trop entreprenants, d'un virus expérimenté par l'armée sur des soldats ou d'une terre ancestrale autrefois habitée par un bataillon masculin. Dans Rewired, c'est au tour de la nanotechnologie, issue d'une expérience scientifique, de changer les étudiants d'une université. Dans Devil's Ridge, l'action se déroule au Far West et implique un village mystérieux dont la population est exclusivement masculine. Finalement, dans Brotherly Love, les frères Landon, Dylan et Chris, découvrent un mystérieux miroir. Y plonger trop longuement les yeux change à jamais la définition de ce que sont les relations fraternelles. On s'en doute, il ne s'agit pas d'une lecture méditative, tant s'en faut, mais ce n'est pas non plus la prétention que nourrissent ces récits, dont l'objectif est avant tout de marier fantasmatique et interdit au cœur des thèmes des jeux de pouvoir, du désir et de la soumission. Les romans sont courts, entre 60 et 100 pages, et sont disponibles en format numérique ou imprimé. 4. En forme de fille, par Maud Lafleur, édition Le Méac. En rupture avec les codes sociaux imposés, le narrateur, la narratrice du premier roman de Maud Lafleur, navigue à travers une quête identitaire double, celle de l'orientation et celle du genre. Un parcours que l'on accompagne de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Difficile de résister aux dictats sociaux, puisque dès son plus jeune âge, Yael a appris à se conformer aux attentes de ses proches, ce qui est fort bien évoqué à travers de nombreuses références et anecdotes culturelles qui illustrent bien l'hégémonie de la pression sociale. C'est ainsi que, lorsque Star Academy régnait en roi et maître des ondes télévisuelles, Yael n'osait pas afficher son adoration pour Annie Villeneuve et préférait se réfugier dans un mimétisme des opinions professées par sa mère qui, de son côté, affichait le plus grand dédain pour les concurrentes féminines. Au-delà des pressions parentales, c'est avant tout à travers les femmes qui traversent sa vie que l'on suit son cheminement. Jessica, Floriane, Jade, Marie-Claude, Annabelle et Éléonore. Ce parcours s'inscrit également dans des lieux de socialisation et d'apprentissage que l'auteur, autrice, évoque éloquemment, qu'il s'agisse des écoles primaires ou secondaires, du cégep du Vieux-Montréal ou de l'UQAM. Contre toute attente, Yael réalise éventuellement que l'affirmation de son orientation sexuelle ne lui amène pas l'apaisement escompté, puisqu'elle se trouve confrontée au code de la bonne lesbienne, notamment incarné par les modèles de la série The L Word, et le dégoût que ses consœurs manifestent lorsqu'un drag king y apparaît. Une recherche identitaire à la fois inspirante et intrigante, mais également une exploration temporelle et culturelle fascinante du Québec des 30 dernières années. 5. Ce que le monde doit au LGBTQ+, par Vinci Thomas, édition Hugo Doc. 30 personnes qui, chacune à leur manière, ont apporté une contribution qui a marqué l'histoire. De l'Antiquité à nos jours, à travers toutes les régions du globe et dans toutes les disciplines, Vinci Thomas nous convie à découvrir notre passé et à changer nos perspectives. Comme il le souligne d'emblée, l'objectif n'est pas de sombrer dans une glorification aveugle, mais bien de souligner l'importance de ces personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans ou queer qui ont vécu, créé, imaginé, dirigé ou milité différemment, avec une sensibilité distincte et un goût de la liberté instinctif. L'ouvrage est scindé en 4 périodes, toutes affublées d'un sous-titre qui en résume élégamment le contexte social. 1. L'Antiquité, où les sexualités sont relativement libres tant que l'on se conforme à quelques règles. 2. Le Moyen Âge, où l'Europe, sous l'emprise religieuse, condamne des actes contre nature, toujours tolérés dans le reste du monde. 3. L'ère moderne, 1450-1900, où l'influence religieuse monothéiste et la domination de l'Europe fracturent le monde sur la question des mœurs. 4. La période contemporaine, où les LGBTQ+, affirment leur place dans la société et militent pour leurs droits. Chaque période est précédée d'un texte qui présente efficacement les enjeux sociaux sous-jacents, les caractéristiques de la culture queer de l'époque, ainsi que l'émergence et le développement identitaire associé. On retrouve au menu de ce tour du monde des incontournables. Sappho, Adrien, Léonard de Vinci, Virginia Woolf, Alan Turing, Rock Hudson, mais également des figures moins connues, mais qui ont joué un rôle tout aussi fondamental. C'est notamment le cas du poète arabe Abu Nuwas, qui, au 8e siècle, évoque le plaisir des hommes. De Bayard Rustin, qui co-organise la longue marche de Martin Luther King pour les droits civiques. Ou de Lynn Conway, une femme trans dont les travaux mèneront à la conception des puces informatiques essentielles aux ordinateurs et téléphones portables de ce monde. L'ouvrage marie efficacement une rigueur des informations présentées avec une légèreté de ton très rafraîchissante qui appelle à plonger avidement dans le chapitre qui suit. D'ores et déjà un essentiel de votre bibliothèque personnelle. 6. L'amour entre hommes dans la poésie française, par Franck Delorieux, dessin de Thomas Castro-Neves, édition Séguer. C'est une première en langue française que la publication de ce recueil où l'amour entre hommes constitue la clé de voûte, que ce soit pour le célébrer ou, plus rarement, le conspuer. Dans l'un ou l'autre cas, c'est l'occasion de porter un regard neuf sur l'émergence d'une versification des amours masculines, du Moyen Âge jusqu'à nos jours. Comme le souligne son éditeur intellectuel, Franck Delorieux, bien que l'homosexualité fût de toutes les époques, il n'en demeure pas moins que le regard qu'on y porte a bien changé au fil des siècles. Pendant trop longtemps, à moins que ce ne soit pour s'en moquer, sa simple évocation pouvait être lourde de conséquences, et la moindre publication constituait donc un geste éminemment politique. Nulle surprise, donc, que plus on plonge dans le passé, plus sa présence soit rare, voire parfois sujette à interprétation. C'est pourquoi la découverte de certains textes est le fruit d'une véritable chasse au trésor, et que le nom de certains auteurs demeure souvent inconnu, puisque, sécurité oblige, ils se voyaient contraints d'utiliser un pseudonyme. Extrait. Fais-moi prêt ce jouvenceau, un ombrageux arbrisseau, afin que sa tresse blonde soit au branle vagabonde de ses rameaux tendrelets. Rémi Bello, 1528-1577. Certains vers homophobes furent également inclus, puisqu'ils sont révélateurs d'une réalité historique. Il a également été décidé de ne pas inclure les poèmes de François Villon, puisqu'ils furent écrits en jobelin, un argot du 15e siècle plus ou moins compréhensible, et que la présence de thèmes homosexuels demeure toujours sujette à débat. Extrait. En ce temps-là, n'étais-je pas libre de donner mon cœur à ce passant? Il l'a pris sans rien me demander, laissant, dans ma poitrine, ce grand vide. Non, je ne maudirai pas le soir de sa venue. Je ne maudirai pas sa lèvre ni ses bras. Ô mon Dieu, vous qui savez tout, savez bien, ses bras, sa force et son étreinte. Aragon, 1897-1982. Dévêt-toi de tes muscles, et parais nu vraiment. Dévêt-toi de tes muscles, sous les corps te couvrant, de savantes caresses et de baisers pressants. Michel Beaugency, né en 1933. Résulte de ce labeur un ouvrage au texte intemporel, serti au cœur d'une splendide reliure, magnifiquement illustrée par Thomas Castro-Neves et accompagnée d'une introduction de Franck Delorieux qui situe les œuvres dans leur contexte historique et politique. Un cadeau pour soi comme pour l'autre. Vous écoutez « Quoi faire ?» livre. 8 suggestions de lecture de Benoît Mignot, paru le 18 juillet 2025 dans le magazine Fugue. 7. Fleurs d'argent, volume 1. Le retour en force de Gengoro Tagame, par Gengoro Tagame, édition Dynamite. Référence fondamentale de la bande dessinée homo-érotique sadomasochiste, la publication d'un nouveau titre de Gengoro Tagame constitue toujours un événement en soi, particulièrement lorsqu'il s'agit de l'une de ses œuvres maîtresses. La notion de nouveauté est bien évidemment relative, puisque la bande dessinée fut publiée au Japon en 2001, où elle rencontra un immense succès. Il s'agit cependant d'une toute première publication en langue française, qui, à l'instar de House of Brutes, gagnant du prix SAD BD 2023, s'inscrit au cœur d'une trilogie. Fidèle au thème de prédilection de l'auteur, la BD nous entraîne dans le sillage d'un homme condamné à perdre de sa superbe dans le Tokyo de la fin du 19e siècle. Jinjiro est héritier d'une petite fortune familiale qui dilapide à tout vent, en particulier auprès de prostituées qu'il honore de sa présence. Arrogant, il n'hésite pas à insulter celles qu'il juge indignes de partager son braquemar, les qualifiant de guenons à grosse vulve. Mais le destin, qui fait toujours bien les choses, le réduit à la faillite et à devoir quémander un arrangement financier afin de rembourser ses dettes. Son créancier lui propose de tirer parti de son corps baraqué et d'œuvrer à titre de garde du corps dans un bordel bas de gamme. Soulagé, Jinjiro s'empresse de signer un contrat sans porter grande attention à son libellé. Dès son arrivée, il se retrouve garrotté et fait office de pute à rabais pour les hommes de la ville. Son corps est progressivement entraîné à accepter les gabarits les plus démesurés, mais les tortures infligées ne visent pas tant à le punir qu'à le briser, à l'humilier et à lui faire accepter son nouveau rôle. Rongé par la rage, Jinjiro se surprend éventuellement à éprouver du plaisir, un avilissement qu'il se refuse à admettre et qui alimente ses désirs d'évasion. Mais pourra-t-il échapper à ce qui l'habite désormais? Un premier tome où l'auteur instaure un climat où tension et sensualité s'entrelacent habilement, alors qu'arrogance et suffisance fondent comme neige au soleil. La combativité de Jinjiro n'en demeure pas moins intacte, et ce premier opus se conclut alors qu'il pense avoir échappé à son calvaire, mais en embrasse un autre. La suite s'annonce donc tout aussi passionnante. Comme à son habitude, Gengoro Tagame distille un érotisme à fleur de peau au cœur d'un environnement ultra-machiste, où les émotions transparaissent tant dans les corps en sueur que dans les regards lascifs ou effarouchés. Il faut souligner la toujours excellente traduction française offerte par les éditions Dynamite. L'ouvrage comporte par ailleurs plusieurs planches grand format ainsi que 4 pages en couleur. 8. DC Pride 2025, A Light in the Dark, par Vita Ayala, Tim Sheridan, Josh Trujillo, Maya Houston, Donna Guillo, Alex Moore, Vincent Cecil et autres. Édition DC Comics. Bon an mal an, les grandes écuries super-héroïques de comics américains publient un numéro spécialement consacré au thème de la fierté LGBTQ. Cette année, DC innove en offrant un arc narratif unique qui plonge dans les racines de son passé. Normalement, la tradition était d'offrir un recueil d'histoires où plusieurs auteurs présentaient le parcours d'un ou plusieurs personnages. Généralement limités à 5 ou 6 pages, ces récits se bornent donc bien souvent à l'exploration d'un élément anecdotique. L'édition 2025 de DC Pride constitue donc une réelle surprise, puisqu'elle explore un même lieu dans lequel s'entrecroisent plusieurs destins. Le récit principal, intitulé « The Heart Wants », s'amorce alors que Green Lantern, version Alan Scott, visite un bar avec Ethan Rivera, un homme trans. Le lieu n'a rien d'ordinaire, puisque depuis 1936, il constitue le refuge et le point de rencontre de nombreux personnages LGBTQ qui ont gravé de leurs initiales ces murs. Ce qui devait se limiter à un simple pèlerinage se révèle cependant caché des enjeux de nature cosmique. En effet, l'énergie dont le bâtiment s'est imprégné au fil du temps crée des réalités alternatives dans lesquelles les protagonistes queer se retrouvent piégés. Alan Scott, Ethan Rivera, Joe Mullane, Midnighter, Apollo, Question, Harley Quinn, Poison Ivy, Bunker et plusieurs autres se trouvent ainsi plongés dans une réalité idéalisée ou cauchemardesque, alimentée par leur inconscient. L'acceptation de soi, les dangers de l'isolement et l'acharnement de la société à vouloir catégoriser chaque individu de manière exclusive sont au nombre des thèmes abordés. Ce dernier thème trouve également écho dans un court récit, Master Planner, dans lequel Jenny Blake, Tony Isabella, relate son parcours de personne trans au cœur du métier de scénariste et d'éditeur-éditrice. Finalement, la BD publie 6 pages où des lecteurs et lectrices relatent en quoi les bandes dessinées de super-héros leur ont apporté aide et soutien. Des témoignages révélateurs de la manière dont l'art peut accompagner un cheminement identitaire. C'était « Quoi faire? Livre. 8 suggestions de lecture de Benoît Mignot, paru le 18 juillet 2025 dans le magazine Fugue ».